fin d'hiver, j'allais dire début printemps, mais c'est fin d'hiver. Je pense que je vais fermer ça. OK. Je vais prendre ça dans mes mains. Mais je vais laisser ça dans les mains du Seigneur. OK, donc on poursuit notre étude ce matin sur la résolution des conflits quotidiens. Puis je vais aller rapidement sur la première partie parce que vous la connaissez, les cinq R de la résolution des conflits. Rendre gloire à Dieu premièrement, retirer la poutre de votre œil. Relâcher la dette que l'autre vous doit, et ça c'est le pardon qui nous est tellement difficile. Et ce matin, on continue dans ça, relâcher la dette, à pardonner, pardonner du cœur, puis les obstacles. Les obstacles qui m'empêchent de pardonner du cœur. Puis voici la phrase sommaire, « Pour pouvoir pardonner comme j'ai été pardonné, il faut que je relâche la dette » que la personne a envers moi. Non, excusez, ça, ce n'est pas la phrase sommaire, c'est que c'est ça le pardon du cœur, que je relâche la dette que la personne a envers moi en la clouant à la croix de Jésus-Christ. Pareil comme Dieu, le Père, a pris tes dettes à toi que tu devais à lui et il les a clouées à la croix de Jésus et c'est comme ça qu'il a pu te pardonner. Puis il nous dit, pardonnez-vous réciproquement comme je vous ai pardonné. Maintenant, il y a des obstacles à pardonner du cœur. On en a vu deux à date. Parce que le pardon qu'on donne à l'autre, ben vient de Dieu. Le pardon qu'on accorde dans notre cœur à l'autre vient de Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Fait qu'on on a vu il y a deux semaines, le premier obstacle à recevoir le pardon de Dieu pour pouvoir le donner à l'autre, c'est quoi? C'est l'orgueil. On a vu le pharisien qui se tenait devant Dieu, il se justifiait devant Dieu. On a vu aussi les deux serviteurs du roi, un qui devait une dette de millions de dollars. Il a été pardonné, gracié. Il a refusé de gracier l'autre parce qu'il n'avait pas reçu le pardon de Dieu. Il voulait juste être exempté des conséquences de ses actions. Donc, l'orgueil nous empêche de recevoir le pardon de Dieu. Deuxièmement, la semaine passée, on a vu quoi? En vouloir à Dieu. L'amertume dans mon cœur, c'est que là, dans mon cœur, c'est comme Dieu me devait quelque chose. C'est comme Dieu est fautif envers moi. Et ça, on a regardé ça. Comment s'en sortir quand on en veut à Dieu, en vouloir à Dieu, par rapport à quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie? Puis là, dans ton cœur, c'est comme si Dieu a péché contre toi. C'est comme si Dieu a une faute. C'est pas possible parce que Dieu ne nous doit rien. Fait que c'est une fausse dette. Mais dans ton cœur, c'est ça pareil. C'est ça la dynamique. C'est ça qu'il faut reconnaître quand on a de l'amertume envers Dieu, qu'on en veut à Dieu. Et puis, on a vu que c'était quoi la solution à ça? C'est d'aller à Dieu puis lui exprimer qu'est-ce qu'on vit. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je lui en veux de m'avoir enlevé mon ami que j'aimais, de m'avoir pas permis d'avoir la job que je voulais, de pas permettre que j'aie une bonne santé, de m'avoir enlevé ma petite fille par un accident d'auto? C'est en exprimant notre douleur à Dieu que Dieu, qui est le Dieu de toute consolation, nous console. Et là, on peut relâcher la fausse dette, renoncer à la fausse dette qu'on a dans notre cœur et, comme entre guillemets, pardonner Dieu, mais ce n'est pas vraiment pardonner parce qu'on ne peut pas pardonner à Dieu. Dieu n'a pas de faute jamais. Mais dans notre cœur, c'est comme s'il y avait une faute envers nous. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se promènent dans la vie avec cette crotte sur le cœur contre Dieu. Pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. Mais ils ne savent pas comment s'en défaire. Même les chrétiens, ils ne savent pas comment s'en défaire. Pas vrai? Bien, maintenant, vous savez comment vous en défaire. Allez à Dieu. Répandez votre cœur devant le Seigneur. Les Écritures regorgent d'exemples de personnes qui s'expriment à Dieu. On a vu ça. Fait que ça, c'est le deuxième obstacle à recevoir le pardon de Dieu. Si tu as de l'amertume envers Dieu, tu ne pourras pas être une personne qui pardonne aisément aux autres parce que tu as une crotte dans le cœur contre Dieu, tu as de l'amertume dans ton cœur et tu ne seras pas capable de pardonner aux autres non plus. C'est pour ça qu'on parle des obstacles de recevoir le pardon de Dieu parce qu'on réalise qu'on ne pourra pas le donner non plus. Puis le troisième obstacle qu'on va regarder ce matin, c'est le doute. Le doute. Okay? Et la phrase sommaire de ce matin, c'est que le doute est un obstacle pour t'approcher de Dieu et expérimenter sa grâce. Elle t'empêche donc de devenir une personne qui fait grâce, qui pardonne aisément aux autres. Donc, le doute ce matin. La Bible nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, Hébreux 11, 6. Sans la foi, c'est-à-dire si tu es dans le doute, bien, c'est impossible de t'approcher de Dieu et de recevoir ce qu'il veut te donner, la récompense. Donc, le doute, c'est le contraire de la foi et cela peut t'empêcher de t'approcher de Dieu pour recevoir son pardon et pouvoir le donner à ton tour. Mais s'approcher de Dieu, comment le faire? Qui est ce Dieu? Comment est-il? Le Dieu de la Bible n'est-il pas inapprochable dans un sens, comme le soleil, comme si on voudrait s'approcher trop proche du soleil, on va se faire brûler, évaporer, là, vaporiser? Bien, oui, la Bible nous donne le portrait d'un Dieu qui est trois fois saint, et qui est assis sur un trône terrifiant, de sorte que les êtres humains qui sont pécheurs ne veulent pas s'approcher. Mais c'est quoi la solution à tout ça? Prions. Seigneur grand Dieu, souverain créateur du ciel et de la terre, je me courbe devant toi, Père. Ce matin, nous nous tournons vers toi, Seigneur, encore. Bénis-nous et garde-nous, Seigneur. Fais luire sur nous ta face et accorde-nous ta grâce. Et Seigneur, ce matin, on te demande de nous révéler qui tu es vraiment. Donne-nous un esprit de révélation et de connaissance dans ta personne. Je chasse au nom de Jésus toute autre voix qui voudrait interférer avec ta voix ce matin. Et Seigneur, je te demande de faire une œuvre dans chacun des cœurs ce matin, le mien en premier. Fais une œuvre par ta parole et ton esprit pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Fait que là, je vous demande là, d'attacher vos tuques parce que ça va aller vite ce matin. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais ce matin, on va voir beaucoup, beaucoup de passages bibliques. Okay? Je vais vous les faire défiler en rafale sur l'écran. Vous n'êtes pas obligé de tourner dans vos Bibles, mais je vous encourage à prendre des notes, puis vous pouvez aller retourner après dans vos Bibles. Donc, le trône de Dieu, s'approcher de Dieu, c'est un Dieu qui trône sur l'univers. On l'appelle le roi de l'univers dans la Bible. Il est assis sur un trône saint et terrifiant pour les êtres humains. C'est un trône qui projette la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu et qui est comme le soleil. Si on ne s'approche pas, si on s'approche trop de lui, on va se faire consumer. La Bible dit que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu, un feu dévorant. C'est pas n'importe qui. Et cette révélation de Dieu, elle est réelle, elle est vraie, elle est authentique. Regardez dans les passages ici que nous allons voir ensemble rapidement. En Ésaïe 6, 1 à 5, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Et les anges criaient autour de lui, « Saint, Saint, Saint ». Et Ésaïe dit, « Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu car j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Il est terrifié, là. Il est terrifié, Ésaïe. Puis pourtant, Ésaïe, c'est un prophète de Dieu, là. OK, qu'est-ce qu'on voit encore? Dans Ésaïe 66, « Voici ce que dit l'Éternel, mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez? » Avouez l'image de comment Dieu est grand. La terre, c'est son marchepied, c'est son appui-pied. Matthieu 25, Jésus, de dire, « Quand le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. » Alors il les divisera en deux groupes, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Jésus va s'asseoir sur un trône et il va convoquer toute l'humanité devant lui et il va les séparer en deux. Y a-t-il l'autorité de faire ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de chaque être humain. Il a toute l'autorité. Apocalypse 6, les rois de la terre, les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut subsister? » Apocalypse 20, « Ensuite, je vis un grand trône blanc. » Et celui qui était assis dessus, le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, le livre de la vie. Les morts furent jugés chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. Voudrais-tu t'approcher d'un tel trône? C'est de la pure folie. C'est de la pure folie de vouloir s'approcher d'un trône comme ça. Mais heureusement pour nous, ce n'est qu'un côté de la médaille, un aspect du trône de Dieu. Mais, écoutez, c'est un aspect à ne pas négliger. Des fois, on parle beaucoup, beaucoup de la grâce et l'amour de Dieu, puis on néglige un peu sa sainteté et sa sainteté, son autorité et sa puissance. Il ne faut pas faire ça. Si on fait ça, on est en train de faire une caricature de Dieu. Autant que quelqu'un qui parlerait tout le temps juste du jugement de Dieu. C'est une caricature et ça frôle l'hérésie. Mais heureusement qu'il y a aussi un trône de grâce. Et, écoutez bien ça, on t'invite à t'approcher de ce trône-là. Un trône de grâce. Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre imminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Mais écoutez, approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Qu'est-ce qui est arrivé pour que le trône impressionnant de jugement, terrible, effrayant, soit devenu pour nous un trône de grâce? Ben oui, nous avons la réponse ici dans le texte. Nous avons un grand prêtre. Ça fait référence à l'Ancien Testament dans le judaïsme. Hein? Le grand prêtre, c'était le sacrificateur qui avait seulement le droit de pénétrer dans le lieu très saint du tabernacle ou du temple une fois par année seulement. Pourquoi? Pour faire expiation du péché du peuple et ses propres péchés. Une fois par année. C'est juste lui qui avait le droit de rentrer là, le grand prêtre. Mais l'auteur de l'Hébreu nous dit que Jésus est le grand prêtre pour nous. Que Aaron, le grand prêtre, et tous ses descendants qui ont joué ce rôle-là, c'était juste comme une préfiguration de Jésus qui allait venir. Eux autres, il fallait qu'ils répètent le sacrifice à chaque année, d'année en année. Mais Jésus est venu une seule fois. Pourquoi? Parce que son sang est d'une valeur infinie. Et seulement ce sacrifice, une seule fois, a payé pour ou peut payer pour tous les péchés de toutes les personnes, de tous les temps, de tous les lieux. Et il est le grand prêtre. Il a été crucifié à la croix à Jérusalem, mais la Bible nous dit que spirituellement, il est allé présenter son sang devant le trône de Dieu pour payer pour nos péchés. Et il nous dit, maintenant, nous sommes invités à nous approcher de ce trône de grâce. Parce que Jésus siège à côté de Dieu, à ce trône de grâce-là. Puis là, je vais vous lire plusieurs versets qui vont aller dans ce sens. Dans Luc 22, lorsque Jésus est devant les autorités pour se faire juger, il dit, mais à partir de ce moment-ci, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et puis c'est ça qui l'a fait crucifier, c'est ça qui l'a fait condamner, parce qu'il s'identifiait à cette prophétie de l'Ancien Testament qui voulait qu'il soit le Fils de Dieu. Il dit, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. Dans Actes 2, Pierre dit à la foule qui est réunie là, Dieu a ressuscité des morts, ce Jésus dont je vous parle, nous en sommes tous témoins. Ensuite, il l'a élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu sur nous. Acte 5. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois, et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur pour accorder à Israël la grâce de changer, de se repentir et de recevoir le pardon de ses péchés. Romains 8, 34. Qui nous condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Wow! Colossiens 3, 1. Mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. Hébreux 1, 3. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Et Hébreux 8:1, alors voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci qui siège dans le ciel à la droite du trône de Dieu. Et j'en passe, j'en aurai 3 ou 4 encore. Mais revenons dans Hébreux 4, 16. Qu'est-ce qui nous est dit là? Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Donc, le contraire de du doute. Hein? Et là, Dieu nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. De quel secours s'agit-il? On pourrait s'imaginer toutes sortes de scénarios dans lesquels on jouerait comme dans un film, on serait en danger, en péril, malade, affamé, etc. Est-ce que c'est de ce secours-là dont il est question dans le passage? Ça ne l'exclut pas, mais ce n'est pas le premier sens du mot « secours » ici dans le passage. Le verset 11 nous parle de s'empresser dans ce passage-là, dans Hébreux 4, si vous l'êtes là. Le verset 11 nous parle de s'empresser d'entrer dans le repos de Dieu, c'est-à-dire de son salut accompli. L'œuvre de Christ sur la croix a été accomplie. Tout est accompli, s'écria-t-il. Il repose de son œuvre et comme on l'a vu, il est assis à la droite de Dieu. Quelqu'un qui est assis, il a fini de travailler. Donc, il se repose. Et l'auteur aux Hébreux, il dit, s'apprête d'entrer dans le repos du Fils de Dieu que Dieu vous offre, c'est-à-dire de son œuvre accomplie, de son salut. On voit aussi dans le même passage, si vous tournez dans Hébreux 4 à la fin, ça se poursuit dans Hébreux 5. Je vais juste vous lire ces quelques versets. Verset 5. « Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes, il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. » Donc, il fait l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. « Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour le péché, comme on a dit. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent, parce que lui est aussi exposé à la faiblesse, mais on a vu sans péché. » Donc, le secours dont il est question ici au verset 16 de Hébreux 4, c'est le secours du jugement de Dieu. Au début, on a parlé du trône de jugement. Ça existe, c'est réel. Et c'est pourquoi on a besoin d'être secouru de ce jugement, parce que la Bible nous dit, nous avons tous commis des fautes envers Dieu, des fautes coupables de jugement de Dieu. Et on a besoin d'être secouru. C'est pourquoi le Nouveau Testament emploie le terme « sauvé » plus que 90 fois. Sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé du jugement de Dieu. Pour ceux qui réalisent leur état de pécheur devant Dieu et qui sont venus au pied de la croix, au pied du trône de la grâce pour en être graciés, pour être secourus au bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. As-tu déjà fait ce pas? As-tu déjà reconnu que tu étais coupable devant un Dieu pur, tellement pur que si tu t'approcherais de lui, de toi-même, tu serais vaporisé et que tu as besoin d'être secouru parce que sinon le jugement vient après la mort. As-tu fait ce pas? Sinon, pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de s'approcher d'un trône de grâce? Parce que maintenant que Jésus est venu, on a vu que ça peut être pour nous un trône de grâce au lieu d'un trône de jugement. Bien, on a la réponse ici dans le passage. Il dit « Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance ». Donc, si tu n'as pas la pleine assurance, est-ce que tu vas t'approcher? Non. Et c'est pour ça que je dis que c'est le doute. Le doute est un obstacle. Le manque de foi est un obstacle à t'approcher de Dieu pour recevoir sa grâce et dans le contexte des résolutions des conflits, bien, pouvoir le donner aux autres pour être une personne gracieuse. Mais douter de quoi au juste? Ben, tu peux douter que Dieu existe. Tu peux douter que Dieu dit vrai, qu'il est trois fois saint et que toi, tu es pécheur. Tu peux douter que Dieu est bon. Peut-être que tu lui en veux, comme on a vu. Tu as de l'amertume envers lui. Tu peux douter que Dieu est sécuritaire. Avoir peur. Tu peux douter que tu en vailles la peine. Mais c'est le dernier point que j'aimerais toucher ce matin. Si tu peux douter que tu sois pardonnable. Et ça touche à quelque chose qu'on appelle la honte. Et j'aimerais parler un petit peu de la honte ce matin. J'aimerais m'arrêter davantage à la honte. C'est quoi la honte au juste? Le dictionnaire nous dit que c'est un déshonneur humiliant, un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. T'es gêné, t'es pas fier. Il y a une tristesse profonde mêlée à un esprit abattu. La honte. La honte, c'est comme un cancer qui nous ronge de l'intérieur. Et beaucoup, beaucoup de gens vivent avec une honte sous la surface qui mijote tout le temps. Cette honte est là, elle est présente et elle nous empêche de nous approcher de Dieu. La honte. Imaginez, moi je le vois sur les visages des joueurs, par exemple, on vient d'écouter le Super Bowl, l'équipe qui est défaite là. Et mon ami, il y en a là, tu le vois sur leur visage. La honte, l'humiliation, la honte. La honte de se présenter devant leurs fans. Ils ont échoué à quelque chose, mais c'est profond là. Ça vient toucher le cœur, ça vient toucher le centre de leur personne. Si tu vis dans la honte, tu ne pourras pas t'approcher de Dieu puisque tu doutes qu'il peut te faire grâce à toi. Tu ne le mérites pas dans ta tête. Il y a un exemple frappant dans le Nouveau Testament de quelqu'un qui semble avoir vécu cela. Donc, on a vu l'opposition de la pleine confiance versus le doute. Le doute que tu sois pardonnable, ça peut provenir de la honte. Un sentiment pénible d'infériorité. Et l'exemple qu'on a dans les Écritures que je vois, moi, c'est l'exemple de Judas. Si vous voulez tourner dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27, on va lire quelques versets. Matthieu 27, au verset 3. Je suis dans la Bible du Semeur. En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent. Il leur dit, « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Alors Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Judas, un disciple de Jésus-Christ, a passé 3 ans en présence de Jésus avec les autres disciples. Il a vu tous les miracles. Il a entendu tous les enseignements. Mais son cœur est resté insensible. Il voulait construire son propre royaume. La Bible nous dit qu'il gérait les fonds que les gens donnaient à Jésus. Il y avait un sac, c'était lui le trésorier de la communauté des disciples. Mais Jean nous dit qu'il volait l'argent qu'on mettait dans le sac commun. C'est dans Jean 12, 4. Jean nous informe qu'au dernier repas, le repas de la Pâque, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le projet de trahir son maître pour de l'argent. Et pendant la soirée, lorsque Jésus lui donne un morceau de pain, il est écrit que Satan entra en lui. Et il sortit Judas pour vendre Jésus pour 30 pièces d'argent aux leaders religieux. C'est l'histoire qu'on connaît. Il est conduit au jardin de Gethsémané où Jésus se fait arrêter pour ensuite être traduit en justice. Mais ce qui se passe ensuite dans la vie de Judas est remarquable. Quand on lit ce qu'on vient de lire, on voit que Judas, à notre grande surprise, en tout cas, à ma grande surprise à moi, je ne sais pas pour vous, il se rend compte qu'il est coupable. Wow! Il dit, et il se rend au temple, au chef religieux, puis il avoue sa faute. Il dit, j'ai péché, j'ai livré le sang innocent. Wow! On parle d'une confession, là, tu sais, dans le cours, on a vu que c'est quoi une bonne confession, là? Ben ça, c'en est toute une, là. Il n'a pas dit, ben là, vous savez, là, je ne savais pas trop qui Jésus était, mais je regrette. Non, non, je suis pécheur, j'ai péché, j'ai livré le sang innocent, et il le déclare ouvertement devant les leaders religieux. Wow! Et non seulement ça, mais il jette l'argent. Et c'est comme il rejette ce qu'il a pu profiter de cette trahison-là. Hein? Il jette l'argent par terre, il s'en va. Tu dis, OK, Judas, wow, t'as des remords, t'es retourné voir les chefs, t'as fait une belle confession de ton péché, tu reconnais ta faute, t'as même jeté les pièces d'argent, t'as renoncé à tout ça. Le gars, il est repentant. Quel sera son prochain pas? Si c'était moi qui avais écrit le scénario du film, ben là, j'aurais mis Judas en train de se rendre à Golgotha, de se frayer un chemin à travers la foule et de le voir se jeter au pied de la croix en sanglots pour implorer Jésus de le pardonner, pas vous? Mais c'est comme on dit souvent, la réalité est plus étrange que la fiction. Ce qui se passe après ça, moi, je suis ébahi de voir ce qui se passe. C'est pas ça qu'il fait. Il va puis il se pend. Comment ça se fait? Le gars, il est repentant puis il va s'enlever la vie. Mais là, il n'y a rien à comprendre. C'est quoi qui se passe dans son cœur? Je vais vous dire ce qui se passe dans son cœur, c'est la honte. C'est la honte. Et la honte l'amène à douter qu'il soit pardonnable et l'empêche d'aller vers Jésus pour demander pardon. C'est la seule conclusion que je peux voir. Pourquoi se pendre? Pourquoi se pendre? Hein? Parce qu'il n'est pas capable de vivre avec ce qu'il a fait. Il n'est pas capable de vivre avec lui-même. C'est ça. Il n'est pas capable de vivre avec lui-même. Mais pourquoi ne pas avoir été à Dieu pour recevoir sa grâce? Il s'en veut tellement, Judas, qu'il s'enlève la vie parce qu'il vient à la conclusion qu'il ne mérite plus de vivre. Et c'est la honte extrême qui l'empêche d'aller vers Dieu. Bon, là, certains pourraient me dire, puis là, je fais une parenthèse, oui, mais Jésus avait déjà dit, au verset 70 de Jean 6, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les douze, et pourtant l'un de vous est un diable? » En parlant de Judas. Ah! Fait que là, tout ça, ça veut rien dire, parce qu'il était un diable. Pareil. OK, attention. Attention. On va examiner la chose. Mais vous vous dites peut-être qu'un possédé, de toute façon, il était possédé, il ne pouvait pas recevoir le salut. Non? Est-ce qu'un possédé va se repentir, reconnaître son péché et jeter l'argent par terre? Non, je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas. Puis, ça touche un peu à notre conception de c'est quoi la possession. Je n'irai pas dans les détails, mais en fait, nous, on s'imagine que la possession est quelque chose, un état de permanence. Mais dans la Bible, ce n'est pas nécessairement ça. Le verbe d'être possédé, nous qu'on a dans notre Bible, ça veut dire démoniser. Ça veut dire affecté par un démon ou Satan lui-même, que ce soit à plus ou à moins de degrés, jusqu'à en être contrôlé. Est-ce que ça peut être de façon permanente? Oui, mais on voit que c'est des fois, ce n'est pas permanent. Jésus aussi a dit dans Jean 17, « Père, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Bon. Et je les ai protégés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Alors, Judas était déjà perdu à ce moment-là, d'après ce qu'on peut voir. Mais est-ce que Dieu l'avait prédestiné à la perdition? Non. La Bible nous dit que le désir de Dieu, c'est qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Par contre, ceux qui refusent de se repentir, Dieu peut s'en servir pour accomplir, même à travers leur rébellion, son dessein. Et c'est ce qui est arrivé avec Pharaon. On voit que Pharaon a endurci son cœur et après, Dieu a endurci son cœur. La même chose qui est arrivée avec Judas. Mais la question, est-ce qu'un possédé peut être sauvé? Bien, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, c'est une possédée. Jésus a chassé le démon. Elle a eu le salut. Elle est au ciel en ce moment. Donc, c'est pas ça qu'il a perdu. C'est quoi qui a perdu Judas? C'est son choix. Son choix, dès le début, de ne pas croire. Le doute, de refuser, de l'incrédulité. Mais ce n'est pas Dieu qui voulait ça. Il a simplement employé Judas, quelqu'un qui ne croyait pas, pour accomplir son dessein. Qu'est-ce que Judas ne croyait pas à propos de Dieu? Bien, Judas n'a jamais cru que Dieu, c'est un Dieu gracieux et patient. Tantôt, on a dit qu'on pouvait faire des caricatures de Dieu. Soit si on exagère trop son amour, sa bonté, sa grâce, ou soit qu'on exagère trop sa justice, sa sainteté et sa colère, on peut faire des caricatures de Dieu puis en arriver à des fausses conclusions. Mais Judas était de ce bord-là. Il ne croyait pas à la bonté, à la grâce de Dieu. Et il s'est tenu loin de lui. Et à la fin, c'est sa honte. Le fait de douter de tout ce que Dieu dit être vrai sur lui-même, qu'il a perdu. La croyance qu'il ne pouvait pas être pardonné, que sa faute était trop grande. Et en fait, il ne se pardonnait pas à lui-même. Et donc, il croyait que Dieu ne pouvait pas le pardonner. Mais savez-vous qu'on fait la même chose? On fait la même chose, frères et sœurs. On fait la même chose dans notre cœur. Mais dans Hébreux 4, 14 à 16, on lit encore une fois, si vous êtes là, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Le grand prêtre qui est Jésus, qui est assis à la droite du trône de Dieu, il comprend. Il comprend c'est quoi la honte. Non pas que lui a déjà vécu la honte, mais il a vécu parmi nous. Il sait c'est quoi. La honte, c'est comme l'amertume, mais dirigée vers soi-même. Tu sais, on a parlé de l'amertume là, envers les autres, c'est le refus de pardonner, c'est ça l'amertume. Mais cette amertume, maintenant, elle est dirigée contre moi. Je refuse de me pardonner moi. C'est ça la honte. Je m'explique. Tu peux en vouloir à quelqu'un qui t'a fait quelque chose d'affreux. Mais la honte, c'est de t'en vouloir à toi-même, puis tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Maintenant, certains vont dire, se pardonner à soi-même. Mais attends un peu là, Brian, c'est pas biblique cette affaire-là. Puis même, il y a des gens qui écrivent ça dans leur livre, c'est pas biblique, se pardonner à soi-même, OK? Bon, pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est écrit, Dieu seul peut pardonner les péchés. C'est ça l'argument. Dieu seul peut pardonner les péchés, fait que tu peux pas te pardonner à toi-même, il faut que Dieu te pardonne, OK? Un instant. D'accord. Si c'est le cas, que Dieu seul peut pardonner les péchés, pourquoi Jésus te dit, pardonne ton frère? Ah, tu ne peux pas pardonner ton frère parce que c'est Dieu seul qui peut pardonner. Ah, ben OK, comment on peut comprendre ça d'abord? C'est quoi l'histoire « Dieu seul peut pardonner » D'où vient cette phrase-là? Ça vient de la fois que Jésus était assis dans une maison, puis il y avait tellement de gens autour que personne ne pouvait entrer dans la maison. Il y a quatre bonhommes qui ont fait un trou dans le toit, ils ont descendu un paralytique sur la civière. Jésus a dit, « Mon fils, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont quoi? Pardonnés. » Scandale. Les religieux, les chefs religieux sont là. « Mais qui peut pardonner les péchés sauf Dieu seul? » Y avait-tu raison? Oui. Oui. Oui, il y avait raison. Parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui peut pardonner tes péchés contre Dieu. C'est Dieu seul qui peut t'es pardonné ces péchés-là, parce que c'est envers Dieu que tu es coupable. Moi, je ne peux pas pardonner tes péchés contre Dieu. Dieu seul peut faire ça. Mais si tu as péché contre moi, hein, Jésus me dit, pardonne à ton frère. Voyez-vous la différence? OK. Si tu voles mon char, tu as péché et contre Dieu et contre moi. Jésus me dit, pardonne. OK? Fait que moi, dans mon cœur, je pardonne à Eric qui a volé mon char, c'est pas vrai, là. Je pardonne à Eric. Mais je ne peux pas pardonner son péché contre Dieu. Il a péché et contre Dieu et contre moi, voyez-vous? OK. Fait que la phrase « Dieu seul peut pardonner », c'est vrai en ce qui concerne les péchés qui sont faits contre lui. Mais les péchés qui sont faits contre toi, Jésus dit, pardonne. Et même si tu ne pardonnes pas, ça va mal aller dans ta relation avec moi. OK, c'est clair. Maintenant, si moi, j'ai fait quelque chose, et après, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, voyons donc, à quoi j'ai pensé de tromper ma femme comme ça? Je m'en veux. Je suis terrible, je suis le plus exécrable sur la terre. Je ne veux pas croire que j'ai fait ça. Et puis j'ai de la misère à vivre avec moi, j'ai honte. Et je n'arrive pas à me pardonner. Bien, c'est réel. C'est réel, là. Là, c'est comme si tu as une dette envers toi-même. Tu te dissocies de ce que tu as fait, puis tu dis... Mais non, le moi qui a fait ça, là, ben là, moi, maintenant, je dis ce moi-là, c'est incroyable. Je ne suis pas capable de vivre avec. C'est fou ce qu'il a fait. C'est pas pardonnable. Et là, la honte vient. Et la honte, c'est l'amertume dirigée envers soi-même. Tu t'en veux à toi-même. Et ça, là, ça va te détruire. On le voit avec Judas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'enlève la vie. C'est la punition capitale, la peine capitale. Judas s'est imposé la peine capitale parce qu'il n'était pas capable de vivre avec ce qu'il avait fait. Ça va te détruire. L'autre soir, vendredi soir, on a écouté un bon film, c'est « As-tu la foi? » Do You Believe, en anglais. C'est sorti en 2015, c'est sur YouTube, si vous voulez aller voir, c'est très bon. Et dans ce film-là, entre autres, on voit un jeune homme qui revient de la guerre et qui est évidemment mal là, dans sa peau. Puis il rencontre une jeune femme parce qu'à un moment donné, il est sur le bord d'un pont puis il veut sauter en bas. Puis là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a une femme de l'autre bord de la rue qui veut sauter de l'autre bord du pont. Et puis, ils se mettent à parler. Puis là, ils parlent de ce qui se passe dans leur vie difficilement. Au début, ce n'est pas facile. Puis elle dit, ben, dis-moi ce qui se passe dans ton cœur. Dis-moi, c'est quoi qui se passe? Pourquoi? Puis on apprend qu'il a été sur le champ de bataille. Puis dans le feu d'action, il aurait pu secourir son ami, pilote d'hélico, qui était venu le secourir. Mais là, l'hélico s'est fait abattre. Puis, il aurait pu secourir son ami qui était pilote dans l'habitacle, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait peur. Et là, son ami meurt. Et là, il dit une phrase. Il dit, « Depuis ce moment, la seule émotion que je ressens, c'est la honte. Je ne peux plus vivre avec moi-même. » C'est réel, mes amis. C'est réel. Puis, ça peut être réel dans ton cœur aussi. La honte. Ça ressemble à Judas un peu, hein? Cette honte va te ronger de l'intérieur comme un cancer et finir par ruiner ta vie, même te conduire à te l'enlever si ce n'est pas réglé. Y a-t-il un moyen de s'en sortir? Oui. Alors, il faut réaliser que tout comme dans les autres situations, c'est la même dynamique qui se produit. tu as encouru une dette envers toi-même. Tu en veux, mais pas à mon frère, tu t'en veux à toi-même. Tu as comme une dette et tu n'es pas capable de te pardonner. Et même, tu peux croire dans ta tête que Dieu te pardonne, mais je vais te dire une chose. Si dans ta tête, tu n'es pas capable de te pardonner, tu n'accueilleras pas jamais le pardon de Dieu. Jamais. Alors, comment s'en sortir? On a vu que toute faute, tout péché qui nous est fait engendre dans nos cœurs une dette. La personne nous doit quelque chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'enseignement clair de Jésus dans la parabole des deux serviteurs dans Matthieu 18. Et c'est aussi le même langage que Paul utilise dans Colossiens 3, où ce que Dieu dit qu'il a cloué ta dette sur la croix. Bon, mais si tu fais quelque chose d'affreux et que là tu t'en veux à toi-même, il te faut réaliser que dans ton cœur, il y a comme une dette envers toi-même que tu n'acceptes pas de pardonner. Et cela va conduire à l'amertume envers toi, la honte, le désespoir. Tu peux même en venir à un mépris de soi et une haine de soi. Ça existe. Mais certains vont dire, est-ce qu'on peut réellement pécher contre soi-même? Oui. Oui. La parole dit dans 1 Corinthiens 6, 18, c'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ah! On peut pécher contre soi-même. Ben oui. Oui. Tout péché est d'abord et avant tout un péché contre Dieu. Ça, c'est vrai. Mais certains péchés vont inclure mon voisin ou mon frère ou moi-même. Donc, comment on fait? Si tu t'es offensé toi-même, oui, tu dois te pardonner. Mais comment? Mais c'est en portant la dette à la croix. En portant la dette à la croix. En clouant la dette à la croix. Pareil comme tu ferais avec ton ami qui t'a volé ta voiture. Prends cette dette-là, va à la croix. Prends la dette que tu as envers toi-même. Va à la croix. Où Jésus pardonne, où Jésus accepte de payer pour cette dette-là. Tu seras pardonné. Tu peux demander premièrement le pardon de ta dette contre Dieu, mais après la dette contre toi, et tu vas pouvoir relâcher la dette. Parce que le pardon qu'on donne, c'est le pardon qu'on reçoit, premièrement. On ne peut pas se pardonner lui-même. C'est pour ça que les gens restent tellement pognés avec ça. Ils ne trouvent pas de solution à ça. Tu ne pourras pas te pardonner si tu ne vas pas au pied de la croix pour te faire pardonner et pour être capable de relâcher la dette que tu as envers toi-même. C'est le même processus que pour les fautes des autres. Tu acceptes que Jésus a payé pour ce péché que tu as commis envers lui et envers toi-même. Et là, tu pourras t'offrir le pardon à toi-même puisque Jésus a payé pour cette dette. Ça demeure le pardon de Dieu. Comme j'ai dit, il n'y a aucun réel pardon complet, authentique, sans que ça vienne de Dieu. Il n'y en a pas. Le pardon qui se fait dans le monde, là, d'abord, la plupart des gens ne savent même pas c'est quoi le pardon. Ils ne savent pas c'est quoi. La plupart des gens vont soit penser que pardonner, c'est simplement oublier ou minimiser ou excuser. Ce n'est pas ça, le pardon. Le pardon, c'est régler la dette en entier et la déchirer, la clouer à la croix et qu'elle disparaisse complètement. Là, tu peux l'oublier. Là, tu peux l'oublier. Au mont Golgotha, deux brigands furent crucifiés avec le Seigneur Jésus. Imaginez l'humiliation d'être cloué sur une croix, presque nu, en train de saigner et de souffrir publiquement. Quelle pensée pourrait tourner dans ta tête dans une telle situation? Quelle pensée pourrait te tourmenter là? T'en voudrais-tu d'avoir été assez idiot, d'avoir commis un crime pour que tu te ramasses là? Peut-être, hein? T'en voudrais-tu d'être avoir été assez idiot pour te laisser faire prendre? Peut-être. Il y en a qui, peut-être, ils n'auraient pas la culpabilité de leur action, mais d'être assez, assez niaiseux, de se faire prendre. Pourrais-tu être dans la honte jusqu'à la mort? Oui. Oui. Mais il y a un des deux brigands qui s'est tourné vers Jésus. Il a reconnu sa culpabilité en disant à l'autre, « Hey, lui, là, pas d'affaire à être là, il n'a rien fait. Nous, on mérite ce qu'on reçoit. » Il reconnaît sa culpabilité. Et on peut déduire par l'échange avec Jésus qu'il a reconnu que Jésus payait pour ses fautes à lui. Et il est mort dans la paix avec Dieu et avec lui-même. J'affectionne particulièrement ce verset dans le psaume 34, ces versets. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de quoi? De honte. Wow! On est rayonnant de joie. Et plus loin, c'est marqué « goûter et constater que l'Éternel est bon. » Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le quoi? Le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont le cœur quoi? Abattu. C'est une belle description de la honte. Certains d'entre vous vivent avec la honte ce matin. La honte par rapport à quelque chose dans ton passé. Quelque chose que tu as vécu. Et tu es honteux. Tu es honteuse de cette chose-là. Tu n'es pas capable de vivre avec ça. Mais tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Ça te hante. Cette chose-là n'a jamais été réglée. Le Saint-Esprit va te le montrer maintenant. Il y a quelque chose dans ton passé dont tu n'acceptes pas d'avoir vécu, d'avoir fait ou ne pas fait, que tu aurais dû faire. Et tu en veux à toi-même. Le Seigneur le voit. Le Seigneur le sait. Je t'invite ce matin à t'approcher du trône de la grâce pour en être secouru. Là, tu verras Jésus assis à la droite de Dieu. Ce même Jésus qui a pris toutes les fautes, toutes tes fautes à toi sur la croix. Cette faute que tu te reproches depuis longtemps, que tu retiens contre toi-même, cette dette, peux-tu le remettre maintenant à Jésus? Peut-être qu'il n'y a personne d'autre sur la terre qui sait c'est quoi. Et toi, tu le sais. Il t'invite ce matin. Il t'invite. Il dit, approche-toi, mon enfant. Approche-toi avec une pleine confiance pour obtenir ma grâce. Peut-être c'est C'est même pas un péché, en fait. Peut-être que c'est juste quelque chose que tu t'attendais de toi-même, que tu n'as pas fait. Et là, tu t'en veux. Ou que tu as fait, mais tu n'aurais pas dû faire. Et là, tu retiens une dette contre toi-même. Approche-toi. Approche-toi de Jésus. Approche-toi du trône de la grâce. Relâche la dette. Cloue-la à sa croix. Viens, goûte à la liberté, à la joie du Père qui t'aime, qui veut te bénir. Prions. Seigneur, Dieu de toute consolation, Dieu de toute grâce, oui, ton trône est élevé. Tu demeures dans la sainteté, dans les lieux très hauts, dans une lumière inatteignable que personne ne peut s'approcher. Mais tu as fait un chemin. C'est Jésus le chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et on peut aller à toi maintenant, à travers de Jésus. Et ton trône est un trône de grâce. Et Jésus, tu es assis à la droite de Dieu, tu comprends. On aurait de la misère à le croire si ce n'était pas écrit. Mais c'est marqué, tu comprends. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, Seigneur, ce matin. Et tu as compassion. Et tu veux me secourir. Seigneur Jésus, j'ai marché trop longtemps avec cette honte dans mon cœur, cette amertume contre moi-même. Je veux le relâcher. Et si tu as péché contre lui, dis-lui, j'ai péché, pardonne-moi. Est-ce que je peux relâcher la dette que j'ai envers moi? Est-ce que tu veux prendre cette dette aussi, Seigneur? La faute que j'ai commise envers moi-même, que je ne suis pas capable de vivre avec moi-même. Est-ce que tu peux prendre cette dette-là sur toi, Seigneur, aussi? Est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux être libre, Seigneur Jésus? Je ne veux plus vivre avec la honte, Seigneur. Je veux être libre. Je veux être libre pour aimer. Aimer les autres. Pardonner aux autres. Être compatissant. Merci, Seigneur Jésus. Je reçois ton pardon. Et je t'encourage à dire ça. Dans ton cœur, et chez vous tantôt, je reçois ton pardon, Seigneur. Je reçois ton pardon. Merci. Merci.